Litera 05 a reçu à la médiathèque de Gap le 6 octobre dernier Maïlys de Kerangal et Sylvain Prudhomme pour une rencontre avec leurs lecteurs. Litera avait déjà reçu Maïlys en 2013 pour la présentation de Tangente vers l'Est et Naissance d'un pont présenté aux lecteurs d'Embrun. Sylvain Prudhomme a été reçu également en 2014 pour la découverte de son livre intitulé « Les Grands ». C'était amusant et original de les faire se rencontrer à nouveau alors qu'ils venaient de choisir pour leur dernier livre la même forme d'écriture, que ce soit dans « Canoë » que Maïlys sous-titre « Récit » ou dans « Les Orages » qui est pour Sylvain un recueil d'histoires. Nous les lisons dans des formes courtes d'écriture et puis on ne peut s'empêcher d'établir des similitudes entre les personnages. Dans les deux livres, on a des personnages qui vivent ou se rappellent un instant de vie, un souvenir, une émotion ou un deuil. Et ce sont ces similitudes que vous allez rencontrer successivement dans cet enregistrement réalisé par Litera 05 lors de cette rencontre.
Alors cette forme courte, Sylvain, tout d'abord, sans doute plus habituelle chez vous, Maïlys, dont certains livres sont déjà assez proches de la nouvelle, ou voire des choses quand même un peu similaires, même s'il y en a des qui sont un petit peu plus longues. Pour vous, Sylvain, c'est sans doute une première. Ces 13 histoires ont été écrites pour la plupart entre mai et septembre 2020, durant cette période extraordinaire qu'a été le confinement. Qu'est-ce qui vous a amené, Sylvain, à préférer l'histoire courte comme forme d'écriture? Et le confinement a-t-il joué un rôle dans ce choix?
Alors, déjà, bonsoir à toutes, à tous. C'est un grand bonheur d'être là, de revenir. C'est vrai, tous les deux, on revient. Et c'est pas pour rien, mais on avait un grand souvenir de notre venue à Gap. Donc voilà. Alors moi, c'est vrai que c'était la première fois que je m'essayais à ces formes courtes. J'avais constaté que dans mes romans, assez souvent, en fait, tout tournait autour d'un moment décisif de la vie, d'une bascule, d'un carrefour de la vie. Et je voyais bien que c'était souvent ça, en fait, autour de quoi je tournais. Et au fond, la forme brève, ça permet d'aller tout droit à cet endroit-là, à ce moment de vérité, un peu, où se prennent des décisions qui vont changer la vie. Donc je crois que ça me permettait d'aller à plusieurs endroits comme ça que j'avais envie d'explorer, auxquels j'aurais peut-être pas consacré un roman, ça veut dire 2 ans pratiquement de travail. Et donc j'avais envie d'aller voir dans des zones un peu troubles, des scènes dont je me rappelais ou que j'avais envie dans lesquelles j'avais envie de me projeter. Et voilà, en allant comme ça comme un coup de sonde dans le moment. Et c'est vrai que le confinement a sans doute joué parce que toute cette période qu'on vivait, j'ai l'impression que c'était une période très faite de tellement d'incertitudes, d'une telle précarité dans les pensées qu'on avait, dans les analyses qu'on faisait de ce qu'on était en train de vivre. Tout était très très meuble. Moi, j'ai eu l'impression pendant cette période de changer plein de fois d'avis, et c'était vraiment pas une période où moi en tout cas, je pouvais pas me lancer dans un projet comme ça à long terme, à un grand chantier. En étant sûr que c'était un chantier pertinent et qu'il le serait encore 2 ou 3 ans plus tard. Donc ça correspondait bien, en fait, à ce moment-là. Je pense aussi que c'était un moment... c'est vrai que Maïlys, après j'ai découvert que tu avais aussi écrit des nouvelles ou des récits à ce moment-là. Il y avait quelque chose aussi d'une immobilité à laquelle on était forcé, qui sans doute encourageait l'introspection aussi, le retour sur des certains moments vécus. Voilà, bon, je sais pas.
Vous, Maïlys, vous avez un petit peu l'habitude de faire des formes courtes. Hein. Bon, je me rappelle À ce stade de la nuit, oui. Kiruna, hein, À ce stade de la nuit sur Lampedusa, Kiruna, l'histoire d'une mine en Norvège, en Norvège. Tangente vers l'Est aussi, c'était assez court, bien qu'un petit peu plus long. Canoë, dans Canoë, avec la nouvelle Mustang, elle est plus longue que les autres nouvelles. Et est-ce que, justement, vous ne pensez pas que l'intensité, justement, des formes courtes, de ces courtes nouvelles, pourrait donner lieu à des histoires plus longues, à des romans? Mustang, ça pourrait être un roman?
Alors, moi aussi, je commence par dire bonjour et exprimer aussi, comme Sylvain, le fait qu'on est, voilà, qu'on est vraiment content d'être revenu à Gap. Mais moi, j'écris aussi des romans longs, hein, parce que
oui,
L'essence d'un pont, Réparer les vivants, Un monde à portée de main, c'est quand même des gros. Non, c'est, alors, j'ai une forme de plus, c'est plus élastique, c'est-à-dire que c'est vrai que les textes dont vous avez parlé, c'est plutôt d'ailleurs des formats de novellas, c'est pas des nouvelles. Là, j'ai jamais fait si court. Là, il y a des textes qui font 10 feuillets. En général, voilà, en dessous, c'est le plus. Oui, je pense que. Tangente vers l'Est ou le, à ce stade de la nuit sur Lampedusa ou Ni fleurs ni couronne, ça c'est des textes qui sont comme des espèces de moyens métrages, quoi. Il y a une centaine de feuillets, c'est vraiment la novella, quoi. C'est-à-dire on est, c'est pas déployé comme un roman, mais ça n'a pas non plus le cadrage de la nouvelle. Et c'est vrai que, alors toi t'as appelé ça histoire et moi j'ai appelé ça récit. On a l'impression qu'on veut pas dire que ce sont des nouvelles, mais de mon point de vue, c'est quand même un espace de roman qui est débouclé dans Canoë. Et c'est vrai que ces nouvelles, elles tournent autour de cette grosse, ce gros texte qui fait la moitié du livre, qui s'appelle Mustang, qui est comme une planète autour de laquelle circulent les sept autres satellites, hein, un peu comme ça. Et c'est vrai que c'est le texte que j'ai écrit en dernier. J'ai écrit exactement, en fait, à la même période que toi, Sylvain. C'est-à-dire le deuxième semestre de l'année 2020. Et le texte qui est venu en dernier, c'est vraiment un texte où j'ai eu envie de revenir quand même sur le moment où j'avais écrit pour la première fois. Donc lors d'un séjour à l'étranger, justement, j'étais pas dans ma langue et il y avait la question du dépaysement, etc., de la déstabilisation et l'idée de capter une forme de fréquence. Et c'est vrai que peut-être que ça pourrait donner lieu, j'aurais pu peut-être en faire le dilater comme un roman, mais je crois aussi que dans ces textes, c'est comme des réductions de romans, moi, ce que je fais, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'à chaque fois, on pourrait presque les plonger dans de l'eau chaude, là, comme du thé, puis ça infuserait, ça peut être des espèces de réduction de roman au sens de réduction de sauce, c'est-à-dire je pense que ça contient plus grand. Mais ce qui m'a attirée, pour le coup, c'est vraiment, c'est un peu ce que disait Sylvain dans cette période, c'est beaucoup la question du cadrage. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment le sentiment que la nouvelle, c'est un format qui permet de focaliser sur quelque chose et d'en donner des contours assez nets, un souvenir, un événement, une action, et revenir, voilà, sur un moment très précis. Et la nouvelle, c'est quand même un format qui peut intensifier ça. Après, moi, je pense que c'est assez bizarre, Canoë, dans la mesure où tous les textes se parlent entre eux. Ils sont tous connectés entre eux. Je les ai tous écrits les uns par rapport aux autres. On peut les lire, on peut en lire qu'un seul. Enfin, on les lit un peu dans le sens qu'on veut, mais pour moi, ils sont tous liés. Il y a des motifs.
Et quels sont les liens ? Quels sont les liens, justement ?
Par exemple, le fait qu'ils ont. D'abord, ils sont tous écrits à la première personne du singulier. Donc, ce jeu narratif, c'est un jeu que j'emploie jamais, à part à ce stade de la nuit. Mais pour moi, c'était un peu la marque du livre. C'était de raconter ces histoires avec à la première personne du singulier.
Ça veut dire que c'est vous dans chacune ?
Ça veut dire, non, pas forcément, mais ça veut dire que ça me ressaisit quand même un peu, et en tout cas ça permet d'inscrire des motifs aussi plus intérieurs. Il y a une intériorité qui peut être parfois plus autobiographique. Bon, Mustang, c'est une nouvelle autobiographique. Totalement.
C'est vous, totalement. C'est vous, totalement.
Ouais, c'est vous, moi, Thomas. Bon, il y a une embardée fictionnelle avec une histoire de flingue dans une boîte à gants, mais par ailleurs, c'est quand même moi tout le temps. Mais dans les autres, voilà, donc il y a quand même cette histoire de jeu narratif qui est une façon quand même de se placer face à l'écriture. Hein, et moi, c'est pas tellement ma pente, hein, j'écris plutôt des romans avec plusieurs personnages, plus polyphoniques, etc., où il n'y a pas ce jeu-là. Donc là, c'était aussi, je pense, très lié au confinement, ce que Sylvain a dit, un temps plus d'introspection, etc. Et puis aussi, la question des voix, qui est une question qui...
On va en reparler, des
voilà,
voix.
Voilà, qui coule de texte en texte. Et puis aussi des formes de fragilité qu'on sent dans les différents textes. Et voilà, on voit un enfant aux yeux chocolat noir, un grand singe. Enfin, vous voyez, il y a aussi une prairie. Il y a des motifs que l'on retrouve de texte en texte. Et pour moi, il y a une forme de réseau autour de cette planète Mustang.
Voilà. Chez Sylvain aussi, mais on va le voir un petit peu plus tard.
Oui, on va le voir. C'est vrai que vous n'aimez pas employer le mot ça. C'est pas que vous n'aimez pas, c'est que là, en ce moment, vous n'employez pas le mot nouvelle. Vous employez le mot histoire, effectivement, Sylvain. Mélise, vous venez de parler du jeu narratif que vous utilisez dans vos nouvelles. Sylvain, on peut aussi se poser la question, est-ce que ces nouvelles ont un rapport avec ce jeu narratif ?
Alors, oui, c'est vrai que ce jeu, il est assez inhabituel pour moi aussi. Alors, dans Parler route, c'était écrit tout à la première personne, c'était la première fois que je faisais ça. C'était très net, très nettement pour moi, en même temps, de la fiction. C'est-à-dire qu'évidemment, toujours dans ces cas-là, on nourrit énormément le narrateur de choses qui nous sont personnelles et tout. Mais quand même, dès le début, c'était un autre que moi. Là, il y a plein de moments où... bien sûr que c'est des nouvelles, tout ça.
C'est des histoires.
On a voulu, on pourra parler de ça, de ce qu'on a voulu indiquer en les nommant. C'est quand même, c'est un vrai choix en fait de décider de pas appeler ça nouvelle. Là, je dis nouvelle par commodité. Là, peut-être plus que d'habitude, il y a des histoires qui sont absolument autobiographiques. Je ne sais pas, Les Cendres, où on voit un fils de 40 ans dans une voiture avec ses parents. Il est assis à l'arrière, comme autrefois, quand il était enfant, avec ses parents, qui se mettent à parler de ce qu'ils veulent qu'on fasse de leur corps après, une fois qu'ils après leur décès. Et donc, c'est une scène que je revois et que je raconte. Je pense que j'aurais jamais... Je ne fais pas ça d'habitude. En fait, c'est la forme brève qui fait que je m'autorise à faire. Là, il y a pareil.
La vague, bien sûr,
le taille et. Il y a plusieurs textes qui parlent d'un personnage de grand-père ou de beau-père qui perd la mémoire. Et ça, bien sûr, que c'est des choses qui sont vécues. Donc c'est... Mais alors, parfois, et peut-être que je crois que ni Les Cendres. Ni la vague, ni le taille et ne sont à la première personne. Je l'ai fait à la troisième personne. Je crois que plus c'est autobiographique, plus je mets la troisième personne, en fait. Parce que. J'ai besoin de mettre quand même un peu à distance, en fait. Il y en a qui sont à la première personne et qui, pour moi, sont. C'est absolument des fictions. J'ai l'impression que, oui, de toute façon, on doit toujours négocier avec ce qu'on montre, ce qu'on cache. Je crois que j'ai beaucoup de. C'est pas dans mon mouvement d'écriture naturelle, mais c'est un peu comme ce que tu disais, d'écrire de l'autobiographique comme ça, directement donné comme ça. Enfin, je pense qu'on le fait assez peu. Parfois, ça existe comme ça sur des formes un peu brèves. Mais souvent, on prend des détours. Le premier texte, par exemple, aussi, il est très autobiographique. Mais c'est absolument une fiction. En fait, j'ai besoin de dédoubler le personnage. Je me divise en deux pour la raconter, pour que ça n'ait pas l'air, ça soit pas trop direct. Ça raconte.
Le premier texte, c'est l'histoire d'un homme qui va passer quelques moments difficiles dans un hôpital au chevet de son tout jeune bébé. Ouais. Et en fait, le point fort de cette nouvelle, c'est que cet homme a vraiment, pour la première fois, la sensation d'être là, à sa place. Voilà. Et c'est raconté par un autre qui va s'emparer du souvenir de cet homme-là, voilà, qui raconte cette histoire.
Justement, moi, je voudrais quand même un petit peu donner juste quelques thèmes pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre de Sylvain. Alors, vous avez parlé de la première qui s'appelle « Souvenir de la lumière ». On n'a pas parlé plus tard, mais c'est plus tard qu'on parlera du titre, justement, « La lumière, les orages ». Il y a deux histoires autour de vieux monsieur qui ont la maladie d'Alzheimer, le tailleux et la vague, qui sont très très belles. Il y a une histoire qui s'appelle Awa Beauté, ça se passe au Sénégal, c'est un souvenir de votre séjour, de votre vie en Afrique, je suppose.
Oui, c'est une fiction, mais c'est bien sûr que c'est nourri à chaque ligne des 2 ans que j'ai passé là-bas en Casamance, voilà. À l'endroit où se passe la nouvelle.
Awa fait des économies pour s'acheter un salon de coiffure et puis au dernier moment, il faut que ses projets vont être remis en question. Il y a l'histoire de l'appartement. Un homme quitte son appartement qu'il a occupé pendant 20 ans. Il revient pour la dernière fois alors qu'il n'y a plus rien dans l'appartement. Et les souvenirs, bien entendu, surgissent. C'est comme une nostalgie, un peu. Hein, oui. L'appartement, je crois que ça faisait un peu cher, ça. Hein. Moi, je vous ai entendu en parler de l'appartement. C'est un appartement...
Mais ça, par exemple, c'est absolument une fiction, c'est-à-dire que cet appartement, il existe. Il y a une embardée fictionnelle, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'imagine lui dire au revoir. C'est un appartement où j'ai effectivement passé 20 ans de ma vie, pratiquement. Mais c'est pas vrai, je ne lui ai jamais dit au revoir. J'ai toujours les clés, j'y vis toujours. Enfin, mais c'est comme un... Voilà, c'est un mouvement fictionnel où je m'imagine que c'est fini, qu'il faut... Mais voilà, c'est un petit appartement à Kiev. Ouais, bref.
L'histoire d'une femme qui, après un grave accident, renaît dans une sorte d'union avec l'océan. C'est très beau, ça aussi, la nuit. Un couple qui se retrouve, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà. Alors, pour lier toutes ces nouvelles, je ne les ai pas toutes données, parce qu'il existe, donc, vous disiez, des liens entre ces histoires. Vous avez un plan au départ. Comment choisissez-vous d'articuler ces différentes histoires ?
J'avais une sorte d'inventaire, une liste d'idées que j'avais, enfin d'histoires que je voulais écrire. En fait, j'en ai pas fait le quart de celles que j'avais imaginées parce que d'autres idées venaient au fur et à mesure. Et après, non, la composition, savoir à quel endroit on les place, ça se faisait. Certaines étaient déjà écrites et je décidais de les placer après coup. Parfois aussi, j'en écrivais pour faire le contraste avec certaines qui étaient déjà là. Je me disais que ça. Je suis pas musicien, mais je me disais que ça ressemblait sans doute à ce que fait un chanteur ou qui compose un album. En fait, il se dit là, il y a une chanson qui est plutôt triste, mélancolique, ou je sais pas. Après, j'ai envie de quelque chose qui contraste et qui redonne une sorte d'énergie. J'imagine qu'il y a quelque chose comme ça de couleur qu'on essaie de varier, de vitesse, de rythme. Donc voilà, c'est vrai que parfois, par contrepoint, j'avais envie d'écrire certaines histoires qui étaient par exemple dans une tonalité beaucoup plus joyeuse, qui n'était pas encore là, ou après une très brève, cette femme dans sa baignoire qui à peine se prend juste un bain et ressort en deux pages, voilà, juste comme si moi j'avais besoin aussi de me laver l'esprit après une nouvelle un peu qui était plus émouvante, voilà, je sais pas.
Oui, je sais pas comment.
Claudine, sur les titres.
Oui, juste avant les titres, c'est vrai que vous dites dans Mustang, enfin, moi quand j'ai lu Mustang, donc cette grosse nouvelle, la nouvelle la plus longue hein, qui fait partie de votre livre, on retrouve des échos aux autres nouvelles qui sont écrites. Enfin, il y a des moments, je me suis dit, ah, ça, je l'ai déjà vu quelque part. Et effectivement, il y a des embryons dans Mustang, des autres histoires. Moi, j'aimerais bien, parce que j'ai l'impression que vous piétinez un peu, de me parler justement de ce parti pris que vous prenez à dire histoire, récit, nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage justement sur ce parti pris quand même que vous avez
Sur l'idée de la nouvelle, c'est-à-dire que moi, j'étais assez réticente à l'employer, parce que d'abord, précisément, il y avait ce gros texte. C'est un livre qui est comme une espèce de... Je dis un roman en pièces détachées. Enfin, j'étais beaucoup plus attachée à cette histoire de roman en pièces détachées, d'espace romanesque, le fait que tout se parle, tous les textes se parlent, et qu'il y avait cette très forte unité du jeu. Donc un roman plus disloqué. Néanmoins, et puis le mot nouvelle, donc il ne résorbait pas Mustang, qui est quand même un texte qui fait une centaine de feuillets, qui aurait presque pu être publié à part en cours. Mais et je trouve surtout que nouvelle, on est dans une... ça indique un genre. On est tout de suite dans un genre. Roman, ça donne pas la même chose, que c'est un beaucoup plus plastique, je trouve, nature de texte littéraire. La nouvelle, c'est un genre, c'est vraiment la short story américaine. On voit bien que c'est... Alors que je trouve que récit et histoire, ça entretient des formes de flottement. Voilà, ce sont des histoires, ce sont des récits, c'est-à-dire on ne les inscrit pas dans un genre littéraire avec des contours très nets. Donc moi, il y a cette nouvelle qui est complète, très excessive, puis il y avait cette idée que j'étais pas complètement sûre que tout ça fasse pas quand même une sorte de roman, vous voyez. Donc voilà, l'idée de l'aléatoire et l'idée peut-être du flou des contours m'a fait que j'étais assez réticente à cette sorte de nouvelle, d'autant plus que comme vous savez sûrement, mais le recueil de nouvelles, c'est très souvent un ouvrage qui collecte, qui rassemble des textes écrits sur une longue période, qui ont été publiés dans des revues, qui ont été publiés ailleurs, et puis l'auteur se dit, mais quand même, voilà, il y a des trucs pas mal, là, si je les mets tous ensemble, j'ai quand même un livre. Non, mais pourquoi pas ? Enfin, c'est même super, d'ailleurs, hein. Clac, et puis on les... Ce qui fait que ce sont des textes qui sont souvent très hétérogènes, hein, qui n'ont pas de lien entre eux, qui correspondent à des périodes très, très différentes. Il y a de plus en plus aussi d'auteurs, y compris des auteurs anglo-saxons, qui travaillent des recueils avec des points d'unité, des nouvelles en réseau, etc. Mais en fait, voilà, pour moi, ça regarde quand même plus vers quelque chose de l'idée de la collection de nouvelles, le truc assez hétéroclite, sans forcément de lien. C'est pas ce que j'ai fait. Enfin, c'est pas ce que je pense avoir fait. Et en tout cas, c'est pas non plus ce que je souhaitais faire. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai. Et je suis exactement dans le même cas, en fait. Et le mot nouvelle, il y a plein de choses qu'immédiatement on y associe, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi, mais il y a quelque chose toujours de la maîtrise aussi, d'une sorte, on dit toujours l'art de la nouvelle, un grand ou une grande nouvelle.
La chute,
voilà, il y a ce truc à l'art de la chute. Et c'est vrai qu'on a l'impression que on doit faire presque une démonstration de maîtrise, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est pas tellement ça que j'ai cherché du tout. Enfin, au contraire, j'avais plutôt envie que chaque fois d'aller explorer des situations qui me démangeaient un peu. J'avais l'envie d'aller voir dans des coins un peu comme ça, qui toujours avaient à voir avec effectivement le. Puis il y avait quelque chose de qui les liait très fort, tout ça, c'était toujours des moments décisifs comme ça, et j'avais envie d'aller voir, y compris dans des choses plus sombres, mais en ne sachant précisément pas trop à l'avance ce que j'allais trouver. Donc le contraire d'une maîtrise. Après, bien sûr, j'essayais de bah, évidemment, en fait, la forme, on y pense sans cesse en écrivant, mais je veux dire, je cherchais plutôt à m'égarer qu'à savoir dès le début comment je voulais que c'est reboucler tout, quoi.
Oui, d'être dans un genre plus de déstabiliser quand même, et non pas d'aller rallier totalement un genre. En tout cas, moi, je rallierais pas le genre de la nouvelle. Ça c'est clair. Je le ferais pas.
En tout cas, on est ravis que vous nous racontiez des histoires.
Voilà, il y a ça aussi, tout simplement, dans l'histoire, dans le récit, c'est des mots éternels. Enfin, je ne sais pas comment dire. Depuis toujours, on raconte des histoires, on récit, voilà. C'est raconté aussi. Enfin, voilà, il y a ce. Je pense qu'on avait envie de cette simplicité aussi, tout ça, dans la désignation. Ouais, voilà.
On va donc passer à un autre point qu'on aimerait aborder avec vous, c'est le titre de votre livre. Alors, par exemple, donc, Maëlys, Canoë. Canoë. Le sens de canoë. Un mot que vous introduisez dans chacune de vos nouvelles d'une façon peut-être un peu oulipienne. C'est vrai qu'on s'amuse, une fois qu'on a compris, on s'amuse à chercher le mot. Comme si on montait dans un canoë pour se passer d'une histoire à une autre. Alors, Maëlys, pourquoi ce mot canoë ?
Bon, alors, il se trouve que il y a. Bon, je cherchais quand même un titre pour tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu cette nouvelle qui s'appelle Ontario, qui met explicitement en scène un canoë, et notamment un canoë que je possède, enfin qui est dans ma vraie vie, qui est chez moi, dans ma vraie vie, au plafond.
Qu'on voit déjà dans Parmi les vivants.
qu'on voit, alors qui a, il y a des esquifs un peu dans tous mes livres, hein, dans les barques de Ni fleurs ni couronne, la barque aussi de la barque de Jacob dans Naissance d'un pont, évidemment le père de Simon, Sean dans Réparer les vivants, il est même un fabricant de yoles, hein, ce qu'on appelle donc des canoës très très souples et très rapides. Alors canoë, pour aller vite, donc c'est un canoë que moi j'avais donc ramené du Canada, donc je l'avais envoyé, je raconte ça. J'avais envoyé. Donc c'était quand même un geste assez déraisonnable, pas tant le prix de ce canoë, qui était quand même assez élevé, mais surtout le prix de son acheminement. Donc ça avait été quand même un espèce d'effarement, et surtout la taille du truc. Je me souviens que chez moi, ils avaient dit, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, c'était bizarre de revenir avec un canoë énorme, bon bref. Mais ce qui m'avait plu, c'était que ces canoës, pour moi, je les ai visualisés comme des véhicules. Et dans cette région de l'Ontario, la région des Grands Lacs, donc Lac Huron, Lac Majeur, etc., Lac Ontario, on voit bien qu'il y a un réseau hydrographique extrêmement complexe. Il y a une espèce de ramification comme ça de rivières, de ruisseaux, etc. Et que les populations qui vivaient là, les communautés humaines, se déplaçaient d'ailleurs en canoë, et non pas, d'ailleurs il n'y avait pas de chevaux, il y avait de chevaux pendant très longtemps, mais privilégiaient le canoë comme moyen de circulation, et donc les canoës étaient vraiment des véhicules qui acheminaient des messages d'un camp à l'autre. Et alors, les canoës, après, comment l'imaginaire se met en route, c'est vrai que c'est aussi des espèces de bouches creuses, hein, on voit bien, c'est creux, donc peuvent y résonner des histoires, ça peut être des porteurs d'histoires, des porteurs d'images, et il y avait cette idée de l'acheminement. Ça me permettait aussi de faire un signe à un auteur qui apparaît dans ce livre, qui est Ursula Le Guin, qui est un auteur de science-fiction, mais qui est surtout l'auteur de la théorie de la fiction panier, et alors elle imagine que peut-être que le premier artefact construit par l'humanité aurait été un panier. Un panier, une calebasse, une écharpe, un porte-bébé, etc., un bol. Et pourquoi pas un canoë, c'est-à-dire quelque chose qui permet de rapporter chez soi ce que l'on a cueilli quand on est cueilleur. Et peut-être que de rapporter des histoires aussi chez soi. Donc il y avait quand même toujours ça. Il y a aussi l'idée que j'ai visualisé assez vite, donc du coup ces nouvelles comme des canoës circulant autour de cette espèce de petit continent, petite terre, petite île de Mustang, et c'est devenu pour moi absolument l'image du livre. Voilà, c'est un objet qui est fluide, assez souple, très endurant, possiblement rapide, et je trouve qu'il est assez beau, et ultimement j'aimais beaucoup l'écriture, c'est-à-dire j'ai trouvé ça beau sur la couverture avec le tréma sur le E, et tout ça m'a plu, et je trouvais que c'était très cohérent sur le plan poétique. J'ai commencé à visualiser finalement tous ces bateaux donc creux, remplis d'histoires et qui circulaient.
On sent bien effectivement en lisant ce recueil que on passe d'une histoire à l'autre, et grâce au canoë. Vous venez de parler d'Ursula Le Guin, dans ce que vous venez de nous dire. On va un petit peu se pencher sur ces épigraphes. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'aime bien attaquer un livre, c'est effectivement les premières phrases, les premiers mots que cite un auteur au tout début de son livre. Et c'est quelque chose qui est souvent assez surprenant. Maëlys, est-ce que vous voulez bien nous lire ce que vous avez marqué ? C'est au début de Mustang, c'est pas au début de votre livre, c'est au début de Mustang.
Oui, c'est dans le livre, et c'est pas l'épigraphe du canoë, c'est vraiment celui de cette histoire-là, Mustang. Alors je lis, donc c'est une feuille, une calebasse, une coquille, un filet, un sac, une écharpe, une hotte, un pot, une boîte, un contenant, un réceptacle, un récipient. Non, c'est cette idée que ce livre, je l'ai écrit aussi pour raconter que j'avais rapporté chez moi un roman à la suite de ce séjour, de la même manière que j'avais fabriqué un bol. Et donc à la fin de Mustang, il y a cette histoire de bol qu'il ne faut surtout pas oublier dans la coffre de la voiture, qui est complètement en pièces détachées. Et ce bol, voilà, c'est pour vraiment rapporter chez moi toutes les histoires que j'ai vécues ici. Voilà. Il y a cette idée-là.
Puisqu'on a écouté l'épigraphe de Canoë, on va donner la parole à Sylvain pour qu'il nous lise lui aussi son épigraphe. Alors,
Moi, je voulais dire aussi que les Canoë, en fait, moi, ça me, comme il y a marqué Canoë sur le livre, je ne peux pas m'empêcher de penser que chaque texte est un Canoë et que ça devient presque un genre. C'est pas des nouvelles ni des histoires, c'est des canoës. Chaque fois on va, mais en plus ça dit hyper bien la sensation qu'on a d'aller dans l'intensité d'un moment, en fait, comme j'imagine, je fais pas de canoë du tout, mais on se retrouve dans l'intensité d'un courant tout d'un coup.
Il y a l'idée d'une espèce de fluidité, en fait, et cette fluidité là pour moi elle liait aussi les histoires entre elles. C'est tout. Voilà, c'est pour ça.
Et moi, j'avais lu aussi que Canoë, c'était en se rappelant que les Indiens, pour passer d'une rive à l'autre et pour apporter les nouvelles, le faisaient en canoë.
Oui.
Et donc, le canoë devient la voie, les nouvelles, parce qu'on va parler, bien sûr, de la voie.
Oui, notamment dans cette région-là. C'est-à-dire que pour aller d'un camp à l'autre, c'était le canoë. Donc c'était à la fois l'outil de communication, le véhicule, enfin c'était vraiment ce qui reliait tout le monde, ouais, et la voix. Alors à toi.
Alors, donc, c'est une épigraphe de Fellini, dans 8,5. Voilà, c'est à la fin du film. Bon. Quel est ce bonheur qui me fait trembler, qui me redonne force et vie? Je me sens délivré, tout me semble bon, tout a un sens, tout est vrai. Et donc c'est à la fin de... C'est à la fin de 8,5, il y a le personnage que joue Mastroianni qui est passé tout près du désespoir absolu et qui à la fin et prend la décision d'arrêter son film, d'envoyer paître tout le marécage dans lequel il était en train de s'enliser et il retrouve une sorte il retrouve une sorte de vérité, enfin, il est sauvé, in extremis, en fait, après être passé tout près du naufrage définitif, et il a tout d'un coup cette certitude très forte qu'il est au bon endroit, qu'il est...
Que tout est vrai, que tout a un sens.
Voilà, et ça m'avait vraiment marqué très fort, cette scène finale, et après il y a la fanfare qui arrive, c'est Fellini, baroque, comme ça, qui termine sur un air de plaisanterie de carnaval, quoi. Enfin voilà, alors qu'on est passé dans des choses terribles, très graves, très éprouvantes. Et voilà, ça disait un peu ce que le mouvement que j'avais envie à chaque fois qu'essayer de raconter les textes aussi. Ça s'appelle les orages. Et donc voilà, il y a l'orage qui passe, et puis une fois qu'il s'éloigne, il y a une autre lumière qui est là, mais le soleil. Enfin voilà, on retrouve une intensité de lumière qui est d'autant plus qui vient nous frapper avec d'autant plus d'émotion qu'on vient d'être secoué très fort, voilà. Voilà.
Voulez-vous le faire dire un petit peu plus tard, le sens de les orages? Ça fait rien.
Juste avant que tu reprennes la parole, Marie. Donc effectivement, c'est une épigraphe où vous citez Fellini, et Fellini sera d'ailleurs, c'est le titre d'une de vos histoires.
Alors, Maïlis, penchons-nous un petit peu justement sur ces canoës. Vous l'avez expliqué, vous en avez un tout petit peu parlé. Tous vos récits suivent à peu près le même fil rouge, celui de la voix. On commence la première nouvelle, l'évocation des voix préhistoriques qui se sont éteintes, pour finir par des voix possiblement venues de l'espace. La dernière nouvelle. Entre les deux, des voix essentiellement féminines. J'en cite quelques-unes, pour que ceux qui n'ont pas encore lu le livre sachent de quoi il s'agit. Il y a l'histoire de voix qui se modifie. Zoé, qui veut travailler à la radio, pour faire de la radio, a suivi des leçons d'un coach pour rendre sa voix beaucoup plus grave, parce que, dit-elle, les voix masculines, les voix graves sont beaucoup plus compétentes, plus solides. Ça, c'est dans Ruisseau et l'Imaille de Fer.
Perçu comme compétent.
Ah, voilà.
C'est une nuance. Hein.
Et si vous êtes l'ami, vous n'êtes pas d'accord, bien sûr.
Voilà.
Il y a la voix du mari de la narratrice, donc votre mari, votre compagnon, qui a changé aux États-Unis, ce qui vous, ben je dis vous, parce que puisqu'on sait que c'est vous, hein, ce qui vous déstabilise un petit peu. Il y a des voix disparues. Lise va demander, Lise, une jeune femme, demande à son père d'effacer le message du répondeur téléphonique qu'elle a à la maison, parce que le message a été enregistré par sa mère qui est décédée 5 ans avant. Donc des voix disparues, des voix blessées. Une faille est apparue dans la voix de la narratrice qui est en train de faire un enregistrement et on repère qu'elle a eu une lésion sur ses cordes vocales. Donc la voix qui est témoin en fait de ce qu'on a vécu. Et puis il y a l'histoire de cet enfant bègue qui n'arrive pas à parler, qui veut faire un compliment à sa sœur et qui met très longtemps parce qu'il n'arrive pas à accrocher les mots. Alors, puisque vous écrivez des mots, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la voix ?
Je trouve que c'est un motif très, très passionnant. Bon, pour une première raison qui est que la voix, elle n'a pas toujours été humaine. C'est-à-dire que notre voix articulée, elle est apparue dans le temps on peut penser que justement dans les temps préhistoriques, les grands singes s'exprimaient donc par des borborings, des cris, etc. Et il y a quelque chose de ça qui subsiste dans l'être humain quand, par exemple, il laisse échapper un cri, parce que l'être humain est censé être le seul animal qui maîtrise ses émissions vocales. Mais voilà, parfois il les maîtrise pas, et alors il y a une trace de notre animalité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se joue de très intense et de très beau dans l'idée de la voix humaine. C'est aussi quelque chose qui a été conquis, et c'est vrai que ce recueil, il commence par une nouvelle qui se passe c'est des travaux dans une bouche, et ça part d'une mandibule, donc c'est-à-dire la mâchoire qui est le seul os mobile de la face et qui est totalement connecté à cette histoire de voix articulée, qui est la voix humaine, qui caractérise la voix humaine. Bien qu'il y ait d'attitude sur les oiseaux, les singes, etc., la voix humaine, c'est la voix articulée. Alors, ça m'a beaucoup intéressée. Je trouvais que c'était vraiment saisissant. Mais je pense que ce qui m'a aussi le plus peut-être troublée, ben c'est l'idée qu'on n'a pas accès à notre propre voix, bien que notre propre voix soit ce qui nous désigne au monde et soit ce qui nous caractérise de manière irréductible, à tel point, et je l'ai appris donc au moment du livre, c'est pas dans le livre ce que je l'ai appris un peu après, et, enfin, j'ai pas pensé... Il y a des systèmes de biométrie vocale qui permettent de sécuriser des paiements en ligne. Ce qui signifierait que, en fait, la voix, elle est tellement personnelle, elle fonctionne comme, je sais pas, une trace d'ADN, une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'il y a 7,5 milliards de voix distinctes sur Terre et on a tous une voix qui nous donc désigne, mais nous-mêmes, on n'y a pas accès parce qu'on ne l'entend jamais. Et surtout, moi, j'entends un peu la mienne, j'entends parce qu'elle est sonorisée. Mais sinon, je l'entends pas. Donc en fait, on n'a pas accès à ce par quoi on est connu par les autres. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de la dissociation qui est quand même assez bizarre et assez troublant. Pour moi, c'est assez énigmatique. Et enfin, la voix, c'est ce qui est très, pour moi, alors là, beaucoup plus bouleversant, c'est que c'est aussi un agent, un vecteur de lien entre les vivants et les morts. Alors, c'est pas qu'on entend les voix des morts, etc., mais c'est que pour moi, tant que la voix des personnes que j'ai aimées et qui sont mortes, je la garde dans mon oreille, il y a quelque chose qui, d'une présence qui est établie. Je suis toujours très inquiète à l'idée de perdre le souvenir de ces voix, et je pense que dans mon économie affective et sentimentale, la voix joue un rôle de cet ordre qui est très très important. J'ai toujours peur d'oublier. Vous voyez que donc en fait je me les rappelle. Ces voix de ces personnes que j'ai aimées qui sont mortes, je me les rappelle parce que j'ai l'impression que si je les perds, ils sont partis, ils partent très loin pour toujours, et j'ai pas du tout le même rapport avec une photo, un objet, etc. Pour moi c'est beaucoup moins intense. Pourquoi? Parce que la voix c'est du corps, c'est un organe, c'est un muscle, et immédiatement c'est de l'incarnation. Pour toutes ces raisons, voilà, la voix humaine c'était passionnant. C'est vrai que c'est revenu aussi beaucoup pendant le confinement. Parce qu'en fait, on n'avait plus accès au corps des autres, mais on avait accès à leur voix, au téléphone, quoi. Et puis un peu aux vidéos. Mais c'était surtout quand même, on était pendu au téléphone, les voix des autres sont revenues quand même très fortement. Et pour moi, ça a été, je pense que c'est aussi lié à ça. C'est aussi un thème littéraire. Immémorial, la voix du poète, etc. Mais moi, j'ai essayé de l'aborder, comme souvent, comme toujours, j'allais pas dire comme toujours, mais par un biais à la fois très physique, un peu organique. Il est question de ces mâchoires. On commence dans la préhistoire, on finit un peu dans la science-fiction avec des contacts. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai essayé d'explorer cette question par divers biais, notamment le biais du genre pour cette histoire de fille qui veut baisser sa voix. Et voilà, et je trouve ça intéressant. Enfin, ça m'a passionné, ça n'a pas fini de me passionner d'ailleurs. Je trouve que c'est le début, je crois, cette histoire de canoë.
Dans le récit Nevermore, il y a deux sœurs qui sont assez particulières, qui constituent un catalogue de voix enregistrées. Claudine va nous lire juste un passage.
Alors, il s'agit des sœurs Klang. Inge et Sylvia, elles sont hautes en couleur, effectivement. Donc elles essaient de constituer ce catalogue de voix. Une œuvre monumentale qui envisageait de restituer à la littérature sa part orale, incarnée, de donner à chaque texte une voix qui soit la sienne, une voix juste et unique, une voix insubstituable, si bien que jamais elle n'enregistrait deux fois avec la même personne. « Nous, c'est les voix qui nous intéressent », prévenait-elle crâneuse. Mais plus encore, l'écoute qu'elle produit. Et elle frottait doucement la pulpe de leurs doigts devant leurs oreilles.
Alors, sans vouloir opposer les mots écrits que vous utilisez, bien sûr, en écrivant vos livres, en tant qu'auteur, et les mots lus à voix haute, en quoi, pour vous, est-ce important, justement, de donner une voix aux mots?
En fait, en tout cas, dans mon travail, la voix est connectée aux mots dès le moment de l'écriture, dès le moment du processus d'écriture, au sens où l'oralité est très présente, elle m'intéresse, et quand je me dis, bon, là, qu'est-ce que ça donne, là, depuis 2-3 jours, je ne dis pas tout le temps, mais très régulièrement, et de manière assez régulière, je lis à voix haute ce que j'écris.
Ce que vous avez écrit.
Donc, à la fois pour entendre comment ça sonne, pour. Moi, j'ai une phrase assez ample, surtout dans les romans, donc, on va voir si ça ne se casse pas la gueule, ou si ça ne s'effondre pas au milieu. Donc. Tout ça c'est intéressant. Il y a aussi l'idée de la cadence, de l'euphonie aussi, hein, et cette oralité elle me touche aussi parce que quand je lis ces textes, en fait ils existent, j'ai l'impression que à partir du moment où ils transitent par ma voix, c'est comme si ces mots qui sont, enfin ces textes qui sont quand même des signes abstraits sur une page blanche, hein, même si, ou sur un écran blanc, en fait je les active. Vous voyez, il y a une espèce d'activation de ces signes abstraits qui passent par mon corps, ma voix, mon souffle, etc. Et j'ai l'impression que ça existe. Et pour moi, ça c'est assez fort. Et c'est vrai que aussi, c'est très important pour moi, je pense, sur un. Ça m'émeut. C'est qu'en fait. En fait, au début de la littérature, la littérature, elle n'existait pas sous la forme d'un livre. Elle existait sous la forme de voix, des voix des poètes, des voix des aèdes qui allaient sur les places publiques et puis qui donnaient des récits.
Les griots.
Les griots. Alors toi, oui, justement, ça c'est quelque chose qui est resté très fort, mais ça, c'est surtout Sylvain qui connaît bien. Mais c'est vrai que quand on regarde dans... Voilà, peut-être les... On fantasme beaucoup sur Homère, peut-être... Mais on sait quand même que, voilà, la littérature, elle était portée de place en place par des voix, et elle existait sous cette forme-là. Et ça rassemblait les gens sur les places, et on les retenait, et puis ça se propageait autrement, et ça se propageait par des gens qui les retenaient, et puis qui les portaient ailleurs. On pense qu'Homère, en fait, c'est peut-être... Évidemment, c'est pas un auteur, mais que c'est des milliers de voix. Et voilà, je trouve que ça, c'est très fort. C'est très lié pour moi à l'écriture, puis à la lecture, parce qu'en fait, on n'y pense pas souvent, mais la lecture à voix basse, enfin la lecture intérieure, la lecture silencieuse, pardon, elle est socialement, historiquement construite. Elle apparaît peut-être d'ailleurs au moment où la fiction apparaît. Avant, c'est des textes d'édification qui sont lus dans les monastères, dans les églises, dans les unis. Vous voyez, les gens sont en chair et ils lisent à voix haute, et puis tout le monde écoute en baissant la tête. Puis à un moment donné, ça passe ailleurs et on lit dans sa tête. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais la voix qu'on entend quand on lit un livre, c'est jamais la voix de l'auteur parce qu'on la connaît pas. Alors peut-être que moi maintenant j'entendrai la voix de Sylvain, peut-être dans Les Orages, mais sinon c'est pas la voix de l'auteur, c'est pas sa propre voix non plus qu'on entend, c'est une troisième voix, et cette voix là est hyper mystérieuse.
On aime bien vous entendre dire ça, parce que je vais faire un petit peu de la pub pour Littérin. À Littérin, à partir de cette année, on a fait un travail justement sur la lecture à voix haute, et on travaille là-dessus, et on va certainement développer beaucoup ça. Voilà, je le dis au public qui s'ils veulent nous entendre. Alors il y a un autre point, moi, qui m'a beaucoup intéressée, c'est le langage technique que vous employez et que vous explorez dans tous vos romans. On se rappelle bien entendu Naissance d'un pont avec les mots techniques sur la construction d'un pont. On se rappelle bien sûr Réparer les vivants avec les mots sur la transplantation cardiaque. On se rappelle le vocabulaire de la peinture Un monde à portée de main, le vocabulaire du trompe-l'œil. Dans Canoë, justement, vous parlez quelquefois justement de la voix d'une manière un petit peu technique. Tu nous lis le passage où... on visualise ce qui se passe dans le larynx au moment de la voix. Claudine, page 112. Page 112. J'ai visualisé le larynx.
Je me suis massé le cou, et pour me détendre, j'ai pensé au processus qui convertit le souffle en voix articulée depuis des milliers d'années. J'ai visualisé le larynx bas dans ma gorge et mes cordes vocales, ces deux petits plis pâles vibrant l'un contre l'autre à toute vitesse au passage de l'air insufflé des poumons. J'ai imaginé les alvéoles, les bronches, la trachée, puis la cavité palatine, les dents, les lèvres, et j'ai décomposé la transformation de ces vibrations en une voix humaine, cette voix dont le micro restitue maintenant la moindre occlusion, la moindre fibrillation, le moindre duel. Cette voix qui prononce.
Voilà. En fait, par votre écriture, ce langage technique... Que certains, moi j'ai souvent entendu des lecteurs, souvent ou pas très souvent, des lecteurs dire « Oh, il y a trop de mots techniques, on les connaît pas. Oui, » Et si vous voulez, pourtant vous arrivez à donner à ces mots techniques une force romanesque. C'est un tour de force. Comment vous vous y prenez?
Dans Canoë, c'est plus de ce côté-là. Je n'étais pas déchaînée comme je suis autour de lui, avec. Par exemple, là, c'est vrai que c'est. Bon, je me dis, c'est la voix humaine. Évidemment que je me dis comment ça marche. C'est quoi la voix ? On est là, c'est quoi la voix ? Donc, c'est quoi ? C'est juste deux plis. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, après, j'étais sobre, parce qu'en fait, le vocabulaire, il est beaucoup plus délirant. Il y a vraiment la grande soufflerie, etc. Moi, j'aime assez ça, parce que pour plein de raisons. D'abord, moi, j'apprends.
Voilà, je me dis, vous apprenez au lecteur ?
Moi, je me dis comment ça marche. Et ça m'intéresse. Je trouve quand même la moindre des choses, c'est s'intéresser à ce sur quoi on écrit. Donc, c'est vrai que je me dis, le lecteur, voilà, il peut faire comme moi. Après, je trouve que ce qui est pas mal, c'est au-delà du vocabulaire. Bon, là, on comprend. Enfin, là, il n'y avait pas de vocabulaire difficile. Parfois, peut-être dans un monde à portée de main, il y a des mots qui étaient plus merveilleux, hein, de tous les noms de couleurs, tous les noms de pinceaux, tous les noms de marbre et tout ça. Bon, moi je crois que ça fait vraiment partie d'une grande option littéraire, c'est ma littérature au sens où moi ce qui m'intéresse c'est de m'initier à mon langage, de m'introniser au français, de connaître ma langue et de ramener dans ma langue finalement tout ce qui n'y a pas droit de citer. Souvent, ce vocabulaire littéraire, il est considéré comme, ce vocabulaire technique, il est considéré comme indigne de littérature, il est considéré comme anti-littéraire, notamment quand j'avais entendu pas mal ça au moment des mots du béton. Que c'était anti-littéraire, que ça n'avait pas de place dans un roman, c'était un peu les trop techniques, etc. Et moi, je ne sépare pas la technique du roman. Ce qui m'intéresse, au contraire, c'est de peut-être ramener ces continents de langage, ces lexiques un peu méprisés dans la phrase du roman. Et ça, pour moi, il y a un frottement avec l'écriture. Parce que, pour le coup, du larynx, on ne peut pas parler de voix humaine sans parler du larynx, parce que, en fait, ce qui s'est passé pour les hommes, c'est quand même que le larynx est descendu au niveau de la cinquième vertèbre. Si ça n'avait pas eu lieu, on ne pourrait pas parler. On parlerait comme les grands singes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands singes en style. Ça s'est joué à un chouïa. Et donc, ça, c'est dingue. En fait, c'est quand même fou. Et moi, j'ai il y a une dimension. Parfois chamanique de la langue qui tourne autour de ces mots. Pour moi, il y a une poétique et un imaginaire très fort dans cet agrégat de ce que délivrent des mots qui sont parfois techniques, parfois que moi je connais mal et que j'ai à m'approprier. Et il y a aussi un émerveillement. Je me souviens par exemple dans Un monde à portée de main. C'est vrai qu'c'est un livre, je me dis parfois quand je lis, voilà, il y a de l'abus, mais il y a un émerveillement. Les noms de pinceaux, quand j'ai compris que chaque pinceau, enfin chaque trait que peut faire si le trait est large, fin, ça donne lieu à un nom parce qu'il y a un poil d'animal. Vous voyez, la marthe, c'est ça, la laque, c'est ça, l'ours, c'est ça, le soie de porc, c'est ça. En fait, si vous voulez, tout ça pour moi, c'est de la précision, c'est du détail et c'est aussi, ultimement, une politique de la langue. C'est-à-dire que pour moi, ça me permet de lutter contre la standardisation du langage, la banalité, les mots, on ne cherche pas son mot, on simplifie tout. Tout s'appelle pinceau. Ben non, tout s'appelle pas pinceau. En fait, un pinceau, il y a 20 mots, parce que selon que c'est comme ça. Bon, moi, ça, c'est un peu pour ça que j'écris, c'est mon boulot. Je trouve là-dedans quelque chose d'assez merveilleux.
Oui, en fait, vous faites émerger de la poésie de ces termes techniques.
Ah, ben merci.
Et de la poésie aussi, ça fait apparaître les choses tout simplement, sinon on les voit même pas. En fait, moi, tous ces pinceaux, du coup, le monde il se met à exister quand on le nomme, en fait. J'habitais à Arles et je devais écrire un texte sur le. Il y a un endroit à Arles qui s'appelle les Aliscans, et finalement j'étais allé plein de fois aux Aliscans et j'avais jamais. Pour moi, il y avait des très beaux arbres, toujours le long des Aliscans, le long de l'allée des sarcophages et tout, c'est une ancienne nécropole. Et le, et le, Et pour la première fois, j'essayais de regarder les arbres qui étaient là, et de, comme je devais écrire un texte dessus, je me disais, mais bon, il faut, regardons-les un peu plus, ces arbres, et je me suis mis à les reconnaître, à les identifier chacun, et tout d'un coup, là, c'était infiniment plus peuplé dans mon souvenir des Aliscans. Tout d'un coup, les choses, en fait, elles apparaissent quand on les nomme. Moi, je sais que j'avais jamais la voix. C'est vrai que c'est une donnée de notre vie, de l'expérience qu'on fait du monde, qui est permanente, en fait, qui nous relie à chacun intuitivement. Et il y a plein de moments où tu décèles des micro-événements, en fait. Là, quand la voix du compagnon change, c'est un moment hyper fort. Moi, je me suis dit, ah oui, on connaît tous ces moments-là, quand la voix de quelqu'un s'est déplacée, ou quelqu'un prend un accent. Moi, je sais pas, mon père, quand il est du Sud, et quand il est revenu habiter dans le Sud, il s'est mis à... Tout d'un coup, quand il parle avec des gens du Sud, il a l'accent très fort, alors que quand il me parle à moi, pas du tout. Et c'est marrant, il y a un truc Et j'ai reconnu ça grâce à quelque chose que je ne m'étais pas forcément nommé. Moi, j'aime beaucoup quand la littérature, elle permet ça, quand elle nous crée cet effet de révélation, en fait. Tout d'un coup, on reconnaît quelque chose qu'on a vu dans la vie, qu'on a vécu sans s'arrêter dessus. Donc, il faut cette acuité pour ça.
Donc, justement, pour revenir un petit peu à vous, Sylvain...
Juste deux secondes. La fin...
Vas-y.
Voilà. Non, c'est simplement, je voulais lire ce que vous aviez écrit à la fin. En mars 2020, alors que je commençais à écrire sur la voix humaine, les bouches ont brusquement disparu sous les masques et les voix se sont trouvées filtrées, parasitées, voilées. C'est quand même assez extraordinaire, cette relation entre le livre que vous écrivez sur les voix et les voix qui ont été masquées.
Oui, et en plus, juste pour finir rapidement, c'est vrai que le coronavirus, c'est un virus qui s'attaquait à la chambre respiratoire. Et donc, qui désignait immédiatement l'endroit d'où l'on parlait. Et en plus, les bouches ont été masquées, et en plus, les mâchoires ont été élastiquées. Et j'avais l'impression que tout nous parlait de la voix humaine, en fait. Oui. Et du péril, peut-être, dans lequel elle était, en tout cas, de l'importance qu'elle avait.
À toi, Claudine, excuse-moi.
Donc Sylvain, pour revenir à vous, juste il y a un passage dans Fellini, puisque déjà on en a parlé tout à l'heure, mais il y a dans l'histoire Fellini, vous rapprochez les difficultés que traverse le metteur en scène, donc Fellini, à celles rencontrées par un écrivain. Anne-Marie, tu peux nous lire un extrait.
L'homme se lève et se remet sans attendre au roman qu'il essaie d'écrire. Son métier est d'écrire des romans. Il ne sait jamais très bien à quoi il veut que son roman ressemble. Il ne sait jamais très bien non plus ce qu'il veut dire, ou taire de sa vie. Comme tous les jours, il se remet à parler le vécu, le rêvé, le fantasmé, l'absolument imaginaire qui paraît vrai, et l'absolument vrai qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir ? Il est bien le dernier à le savoir. C'est encore et toujours le même travail de taupe, encore et toujours le même forage de galerie à l'aveugle, la même percée de tunnels et de cheminées qui mèneront, on verra bien où, les mêmes jeux de chausse-trappe, de faux-semblants, de gémination, de masques, les mêmes éternels arrangements avec le même sac de secrets inavouables. J'ai jamais rien lu d'aussi fort sur le travail de l'écrivain.
C'est bon. Bon, merci, mais moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression que le plaisir de l'écriture, il est là dans cette exploration, dans le fait de perdre pied, de pas savoir d'avance, en fait. Ça, c'est et j'ai l'impression que moi, j'ai besoin d'être en train de creuser un endroit dont je sais qu'il m'est nécessaire et important, d'être un peu en mon... C'est qu'il y a quelque chose d'être bien centré, d'être à un endroit qui vraiment nous importe, qui n'est pas quelque chose qu'on a choisi, pas un sujet qu'on a choisi et qui nous serait extérieur. Être à un endroit qui nous importe vraiment, et après, ma foi, on ne sait pas ce qui va advenir, mais on cherche. Il y a des moments où on sent qu'on n'est pas au... on se dit, là, je ne suis pas au bon endroit, enfin, on est à côté de soi-même. Et ça ne veut pas dire du tout qu'on raconte sa vie, hein, mais c'est voilà, simplement... Bon, moi, je ne sais pas, c'est comme ça, en tout cas. C'est les sensations que j'ai.
Mais on sent effectivement, en tout cas, à la lecture de ces différentes histoires, et il y a des passages bien précis, que vous trouvez dans la force, la complexité, les contradictions du réel, matière à nourrir la fiction. C'est ce rapport entre le réel et la fiction que j'aimerais bien vous entendre parler. Quelle est donc cette part de réel qui vous inspire tant et pourquoi avoir retenu justement ces moments bien particuliers que vous allez nous raconter? Je pense que vous me voyez venir quand je pose cette question.
Vous pensez à des moments comme ça un peu?
Oui, c'est par rapport au titre, parce qu'on aimerait bien que vous nous parliez justement de ce titre. Donc qu'est-ce que c'est que cette part de réel qui vous inspire tant?
Bon, moi, c'est vrai que j'ai besoin d'être certain que le texte que je suis en train d'écrire, il m'est nécessaire. Enfin, c'est la question de la nécessité. Moi, je crois qu'elle est très importante, en tout cas dans mon expérience de l'écriture. C'est ça qui donne quand même la force après au texte qu'on écrit. Enfin, je de plus en plus, je pense ça même. Il y a des livres. Je ne sais pas qui. Là, je ne parle pas de livres que j'ai écrits moi, pas du tout, mais des livres qui, on sent qu'ils naissent juste pile du bon endroit et avec une justesse comme ça dans l'élan, dans le mouvement d'écriture, ils sont là et avec une force qui les rend, indubitables, tangibles. Ils sont là devant nous et parfois, moi j'ai toujours peur de faire un texte qui soit un peu superflu, je ne sais pas comment dire, on peut faire des choses, parce qu'au bout d'un moment on a l'habitude quand même d'écrire, donc on peut toujours faire quelque chose qui sera un peu, qui peut nous être davantage à distance et tout. Donc voilà, en tout cas moi le lien avec le réel, il est là, il est dans la recherche de, je vais prendre cet élan là dans quelque chose de, dans une amorce qui est, c'est pas forcément vécu, mais ça peut, c'est vécu ou que j'aurais bien aimé vivre, ou je sais pas, quelque chose. Dans ces cas-là, c'est presque vécu en fait. Ce qu'on a failli vivre et qu'on n'a pas osé vivre, c'est en nous, ça y est, c'est du vécu d'une certaine façon, sur le mode peut-être du renoncement, de la frustration, du fantasme. En tout cas, je voilà, c'est l'impulsion, elle est souvent là, comme ça. Et après on n'est pas du tout obligé de raconter. Enfin, après je fictionne, après j'aménage, je détourne, je vis des choses que j'ai pas vécues en fait en vrai. Mais c'est toujours il y a ce lien. J'ai l'impression que l'aliment il est là. En fait, donc, malgré tout, on a pas d'autre. J'ai l'impression que le principal matériau dont on part et qui nous donne cet élan, et ben forcément c'est. C'est ce qui nous a traversé un peu de façon intense dans notre vie, on ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas du tout qu'on a le projet de raconter notre vie, franchement. C'est juste que c'est là qu'est l'enracinement le plus fort, quoi, dans notre corps. Et donc, je ne sais pas, il est là, peut-être que ça répond un peu à la question du réel et de la fiction. Mais c'est, ouais.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des moments très intimes que vous nous racontez. C'est des moments où on sent que... ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et justement, ces moments sont mis en éclairage. En éclairage, la lumière, la lumière, les orages. Voilà, c'est effectivement, dans votre titre, vous définissez bien ce dont vous allez nous parler dans ces nouvelles. Hein. C'est cette mise en lumière avec tout cet éclat et puis aussi ce bruit qui peut être terrifiant, qui peut être bouleversant, ou qui peut amener aussi autre chose, quelque chose de beau.
Oui, le fracas de l'orage, enfin avec le qui passe et qui parfois nous, on a peur, qui nous menace et puis qui s'en va, qui finalement en nous ayant juste frôlé. Et je crois que j'ai failli choisir un titre avec le mot lumière dedans, parce que je crois que c'est ça surtout que j'avais envie de raconter. C'était les moments où on est dans cette clarté-là, d'une certitude, de quelque chose qui est trouvé quand on prend une décision. Tout d'un coup, on est certain que c'est ça qu'on doit C'est ça le chemin qu'on doit suivre à partir de maintenant. Et donc, tout c'est ce qu'on appelle, il y a ce mot d'épiphanie, en fait, pour dire ce moment de révélation où tout d'un coup, on sait, en fait, voilà. Et j'ai pas voulu le mettre dans la... Si on met une lumière dans un titre, ça fait... Tout de suite, c'est un truc un peu, quand même... La nouvelle, elle s'appelle... Comment ouais. C'est un peu religieux, ça. Et c'est un peu... Et puis, on a l'air un peu d'être...
Non, mais pour le coup, Orage, c'est... Ouais, c'est le moins de lumière.
Ouais, je me suis dit, je vais déplacer, je vais raconter. En fait, mais l'orage, on l'entend,
c'est éphémère. C'est
voilà,
l'électricité,
la
lumière de l'éclair aussi.
Et on sait que l'orage passe.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quand même.
J'avais peur. En fait, je voyais bien que tous mes textes racontaient un peu le retour de la lumière après l'orage. Je me disais, si le titre aussi dit le retour de la lumière, enfin, je ne sais pas, vous imaginez le truc quand même, ça fait un peu planant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi tous ces états troubles. Je pense que. C'est pour ça que je suis touché quand tu repères des micro-événements comme ça, toutes les zones en nous qui sont ambiguës, par exemple le père qui est au chevet de son enfant, qui est entre la vie et la mort et qui heureusement va vivre, mais il ne le sait pas encore, il est paradoxalement dans quelque chose, il n'est pas du tout abattu, il est dans un état de presque de... d'euphorie, ce qui est très bizarre, mais parce qu'il est à l'endroit exact, il est sûr qu'il fait la chose la plus importante de sa vie, donc il sait qu'il... Et ça m'intéresse de nommer ça, en fait, le fait que, alors même qu'on est au cœur de quelque chose de peut-être terrible, on peut être sûr que oui, on est à la bonne place et ça peut donner une sorte de bonheur. Ou ça m'intéresse aussi l'état après l'enterrement, ils viennent d'enterrer dans les cendres, les parents qui reviennent et qui sont dans un état un peu bizarre, comme celui quand on est endeuillé, où on peut aussi avoir un... faire des blagues, être très... Il y a une sorte de nervosité, d'électricité dans notre état qui fait qu'on peut aussi être très joyeux, très, très, très exubérant, alors même qu'on vient de vivre quelque chose dont personne ne doute que c'était très triste et très douloureux. Voilà, c'est tous ces états d'ambivalence, moi, qui m'intéressent. Et bon, voilà, les orages, je me dis, les orages, ça raconte un peu ça, quand même. Dans le mot orage, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi, voilà. Il y a des éclairs, de la...
L'intensité.
Ouais, l'intensité, en tout cas, voilà.
On passe à... Oui, on voit d'autres points de rencontre entre vous deux. La lecture, ben vous avez beaucoup parlé des livres, bien sûr qu'on parle des livres ce soir. Sylvain, dans une de vos histoires, La tombe, vous faites dire à votre narrateur qui est libraire, je crois que Claudine n'a encore pas pris la lecture, page 150.
J'ai grondé.
Contrairement à ce qu'il a cru,
oui, ça va ?
Merci.
Contrairement à ce qu'il a cru, peut-être faut que j'enchaîne avec ça. Contrairement à ce qu'il a cru, il n'est pas écrivain, mais quelque chose d'autre qui n'est pas moins précieux, qui l'est peut-être même plus, car désintéressé, gratuit. Nous sommes des lecteurs. Au fond, toute notre vie, nous aurons fait cette chose magnifique. Lire les autres, leur prêter notre souffle, notre intelligence, notre imagination.
Mais Sylvain, quand vous écrivez, où c'est que vous placez le lecteur ? Vous le placez quelque part, hein, le lecteur ? Leur prêter notre souffle, notre intelligence, notre imagination.
Le lecteur, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, j'ai l'impression que je... J'ai toujours le souci que le... Enfin, en tout cas, j'ai le souci que ça soit... qu'il puisse être accueilli dans ce que j'écris. Enfin, je me méfie toujours de... c'est pas de la difficulté en elle-même. En tout cas, je sais que je n'aime pas quand un livre est complaisant dans sa difficulté. Ça, c'est sûr. Enfin, ou dans son... Je sais pas comment dire sur... J'ai l'impression que, oui, je crois pas du tout, par exemple, je crois que c'est Grac qui dit il faudrait la vraie écriture, ce serait d'écrire seul, sans aucun souci d'être lu. Elle a cette solitude. Je sais plus. Je crois que c'est dans. En tout cas, cette idée que c'est déjà presque un compromis ou une trahison de penser à ceux qui vont lire en même temps qu'on écrit, d'avoir ce souci-là. Moi, je ne crois pas ça. Je pense qu'on a très envie d'être lu quand on écrit. On a envie que c'est quelque chose qu'on adresse, qu'on veut partager. Donc, je me demande toujours comment celui ou celle qui lit va trouver son chemin dans... Je pense pas à ça sans cesse. Je veux dire, c'est pas moi. J'écris ce que j'ai à écrire, mais j'ai l'impression qu'on est un peu comme si on préparait un chemin un peu au milieu d'une forêt. Il y a des gens qui créent les sentiers, qui les balisent, et on se dit, ah là, peut-être que là il va y avoir on va passer devant tel point de vue et il y aura une émotion là peut-être, mais on prépare tout et après on sait pas bien. Une fois que le livre est fini, on se dit maintenant est-ce que des gens vont avoir envie d'aller s'y balader sur ce sentier, est-ce qu'ils vont être touchés à un moment où on espère qu'ils le seront, je sais pas, enfin, mais on a aussi une grande incertitude de ça.
Quelquefois le lecteur, vous laissez au lecteur le choix d'interprétation, quelquefois, à l'écrivain. Assez souvent d'ailleurs, hein, assez souvent.
Oui, c'est vrai. Moi, j'aime pas trop souligner ou trop expliquer. Ça, c'est sûr. Je préfère que les choses restent ouvertes. Je fais confiance quand même. Je sais que j'aime dans les livres que j'aime qu'on on ait eu confiance dans le fait que j'allais comprendre et que j'allais faire les liens sans trop les souligner. Je pense que oui, cette part active de la lecture, elle m'importe beaucoup. Ça, c'est vrai. Oui.
C'est ce que vous dites quand vous dites leur prêter notre souffle, notre intelligence, notre imagination.
Voilà. Ouais, je pense que c'est le lecteur qui fait vivre le livre, en fait. Sinon, comme tu disais, c'est que signe sur la page, en fait.
En tout cas, vous nous laissez toute la place à nos lecteurs. Et ça, c'est bien parce que, effectivement, ce sont nos images, notre imagination, notre sensibilité qui fait qu'on reçoit votre texte quand on les lit. Et ça, c'est cette place-là que vous nous laissez, cette ouverture-là, c'est quelque chose de magnifique.
Maïlys, vous avez dit, vous avez écrit, lire et écrire sont toujours le recto et le verso d'une même présence au monde. Vous avez dit aussi, je n'écris que parce que je lis. On sait que vous lisez beaucoup. On sait que vous, avant d'écrire un livre, pendant que vous écrivez, vous vous documentez. On vous a posé souvent la question, je pense, hein, pendant l'écriture de vos livres. Qu'est-ce que ça représente, ce temps, justement, pour vous, ce temps hors de l'écriture, réservé à la lecture ? Vous y puisez quelque chose ?
C'est assez mélangé chez moi. Quand je dis vraiment que c'est le recto et le verso, d'un même geste, hein, au sens où j'envisage pas d'écrire sans lire. J'ai besoin de lire pour écrire, oui. Je lis mes contemporains, mais je lis aussi tout type de livres. Et j'y cherche. Je cherche évidemment comme tout lecteur à ce que voilà, être déplacé, inquiété, ému, voilà, c'est tout ce qu'on demande à la lecture. Mais je trouve que cette question du lecteur, elle est compliquée quand même quand on écrit, parce que en fait, moi je crois que quand j'écris, il y a une altérité qui est là, elle est là. C'est-à-dire que je ne sépare pas le geste d'écrire de l'idée d'être lu. Je pense que j'aurais pas eu le désir d'écrire si j'étais sûre que jamais personne me lirait. Pour moi, il y a une espèce d'aller-retour. Je dis toujours, c'est des vases communicants. Pour autant, cette altérité, elle est comme un poste, quoi. Mais elle n'a pas de, évidemment, elle n'a pas de genre, de visage, de niveau social. On n'écrit pas pour un type de lecteur. À ce moment-là, on fait du commerce. C'est très différent. Le lecteur, pour moi, c'est une altérité assez abstraite qui est totalement imbriqué et totalement corrélé au geste d'écrire, mais je serais pas, elle n'a pas de visage et j'y pense pas tellement quand j'écris. J'y pense peut-être plus quand je me lis à voix haute, je me dis oh là là, attends, là c'est vraiment calme-toi, enlève les mots, etc. Mais parce que je vois, parce que pour moi, voilà, c'est parce qu'on a, on essaye de régler quand même ses excès. Mais non, moi, j'ai l'impression que je vois pas du tout. Même les étudiants, je dis, ben comment, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'on écrit, qu'est-ce que... Mais déjà, il faut lire. En fait, tout est dans la lecture. Et moi, j'ai vraiment, alors ça, vraiment, j'ai toujours eu cette conviction que j'écrivais depuis ce que j'avais lu. C'est-à-dire totalement influencée par tous les livres que j'ai lus. J'ai pas du tout le fantasme de l'autoconstruction, et je pense que peut-être la singularité de mon écriture, cette espèce de parfois de recherche, la précision, la profusion parfois, etc. Cette singularité là, qui est un style, elle peut être présente, elle peut être singulière. Ce style, il peut être singulier que parce que j'ai lu avant. C'est-à-dire, je pense pas du tout que, voyez, c'est on écrit comme ça, que ça vous tombe dessus, et puis que c'est tout s'écoule. Voyez, tout sort, impeccable sur la, ou pas d'ailleurs, mais sur la page. En fait, c'est plutôt une façon de parler depuis et de prendre place au milieu de tous ces textes, de toutes ces voix, pour peut-être à un moment donné tirer un fil, une émotion, et voilà, et avoir envie de la déplier. Moi, je conçois plutôt ça comme ça.
Alors justement, comme là, je crois que l'heure tourne un peu,
oui.
Si on veut qu'il y ait un peu de questions dans le public, vous parlez quand même effectivement de la lecture, de la voix. Chez tous les deux, il y a une musicalité extraordinaire quand on vous lit. Alors, pour terminer, on aimerait bien que vous nous lisiez chacun. On a choisi deux petits extraits et on aimerait bien que vous leur prêtiez votre voix.
Maïlis, peut-être pour commencer, donc un extrait de After. C'est une bande de jeunes qui viennent de passer le bac, ils ont réussi le bac. Et Vince, c'est marqué.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et ils ont réussi le bac et ils font une soirée de fête dans une prairie.
Et finit la tristesse. Et elle s'arrête tout. Finit la tristesse.
Parce que derrière, encore.
Encore.
C'est marqué.
Ah, mais oui.
Donc voilà, hein, ce sont des jeunes qui font la fête dans une prairie parce qu'ils ont réussi le bac.
Ils ont réussi le bac. Et puis Vince, 20 ans. Le plus vieux de la bande, ce qui lui conférait son prestige, a réclamé l'attention, jean lacéré aux cuisses et t-shirt rouge, et a proposé comme un jeu que chacun pousse un cri. C'est quoi ce délire ? Noëlla a froncé les sourcils. Pour une fois qu'on a le droit de gueuler, faut en profiter, il a soutenu, rieur. J'ai pensé à Abel, qui avait eu tant de mal à articuler sa déclaration, et je n'ai plus écouté Vince, qui racontait aux autres comment le cri avait été banni de la société, éliminé de nos vies, cantonné en certains lieux. Quand tu cries, tu bascules du côté de l'animal, c'est le problème. Il a conclu en creusant des yeux ronds, tout en poussant des hou-hou de primates. L'étrange rituel s'est mis en place quand le feu s'est aminci, dressé à la verticale en une spirale incandescente de toute beauté. À tour de rôle, chacun s'est écarté dans la nuit, puis a ressurgi à marche rapide vers les flammes, s'est immobilisé face aux autres et a poussé son hurlement de frayeur, d'excitation, de désespoir, de colère, de plaisir, appel, aboi et vocifération. Et c'est le cri primal, toi, m'a glissé Vince à l'oreille, tout en balançant d'une pichenette son égo dans le feu. Je l'ai regardé, interloqué, n'importe quoi, mais il se prenait au jeu. Si, tu fais comme à la naissance, tu pousses un cri puissant et hop, ça te fait renaître. Nickel, finis la tristesse. Ben voyons. Quand ce fut mon tour, je suis partie dans les ténèbres, loin. J'ai marché à travers les poacées hautes, j'ai senti les coulées frayées par le passage des chevreuils, les souilles où les sangliers avaient uriné, copulé, où les laits avaient mis bas, j'ai marché en diagonale vers la citerne. L'air était d'une folle densité,
Des insectes se collaient par dizaines sur ma peau poisseuse, des moustiques me suçaient le sang. J'ai perçu le pouls de la prairie, sa vibration sauvage. J'ai écouté longtemps, à l'écart des hommes, au plus près des bêtes. Et quand je suis revenue vers la fête semblable de loin à un feu de Bengale, j'ai hurlé moi aussi. J'ai gueulé, j'ai crié, jusqu'à m'effondrer dans l'herbe, évanouie.
S'il y en a qui sont allés écouter Maëlys aux correspondances de Manosque, elle est arrivée à faire pousser des ou-ou à tout le public. C'était formidable. De cri, il est aussi question dans une nouvelle chez Sylvain qui s'appelle Les Voisins.
C'est le premier paragraphe.
Oui, c'est marqué.
D'accord.
Okay. C'est Maria qui l'a voulu. J'ai eu des voisins qui criaient en faisant l'amour. Je veux dire qu'ils criaient si fort qu'on les entendait dès le hall de l'immeuble, 5 étages plus bas. Cela pouvait arriver à tout moment de la journée, le soir très tard, presque tous les jours, le matin très tôt, presque tous les jours aussi, parfois dès 5h du matin, dans l'immeuble encore tout entier ensommeillé, comme si au premier œil ouvert de l'un ou de l'autre, le désir se relançait. Comme s'il leur était impossible de se trouver éveillés dans la même pièce sans qu'aussitôt leur ardeur se rallume. Et puis à d'autres moments moins prévisibles, en plein après-midi, en pleine matinée, des heures où vous étiez paisiblement à travailler, à prendre votre thé, à écouter de la musique. J'ai utilisé le mot « crier », mais il est injuste. Crier, c'est banal, c'est cliché. Ça fait blague, ça fait mauvais film X. Non. Il ne criait pas de cette façon. Il criait de joie. Il faudrait trouver un autre mot que crier. Jubiler, exulter. J'ai eu pendant des années des voisins qui exultaient en faisant l'amour. Voilà. Avec le temps, je suis devenu expert en détection de signes avant-coureurs. Ça commençait toujours par un rire sorti de sa bouche à elle, un rire isolé, en cascade, qu'on ne pouvait encore rattacher à rien de sexuel. Et puis d'autres rires venaient, on avait l'impression d'une parade, d'un jeu d'oiseaux qui se poursuivent, se tournent autour, se cherchent, s'agacent, jusqu'à un cri beaucoup plus fort qui était le vrai début de tout. Un cri d'un volume jamais entendu dans tout l'immeuble, très haut perché, très long, une stridulation. À partir de là, tout démarrait vraiment. Que se passait-il exactement de l'autre côté du mur? On était forcé d'imaginer. Je veux dire, il était impossible, en entendant ce cri, de ne pas se mettre à imaginer 1000 scènes en train d'advenir. C'était plus qu'un cri, une provocation à imaginer, un défi lancé au fantasme de tout l'immeuble. Il y avait dans la voix de la fille une note de terreur, de panique, mais on y entendait aussi un immense éclat de rire. C'était de la terreur feinte, une terreur flatteuse, quelque chose comme une supplication, un « Oh mon Dieu, non, pas ça !» mais qui suppliait en s'étranglant de rire.